J'aimerais faire un petit plan là, je vais vous le communiquer, ma petite feuille là. D'abord présenter un peu le sujet. Ensuite, un peu d'expérience. Je vous dis bien que la façon de traiter le sujet, ça va être moi, hein, parce que avec ce que j'ai vécu. Donc il faut que j'explique un petit peu ce que j'ai vécu, puisque de là découle comment je vis les épreuves et puis comment j'essaye de trouver avec Dieu d'avancer. Hein. Différents types d'épreuves. Je pense qu'il est important de cerner les types d'épreuves que l'on vit. Et puis ensuite, je ferai un petit témoignage par la prière. En fait, ce que j'ai appris dans le temps pour vivre et puis avancer vers le Seigneur à travers le chemin de la vie. Hein, on a tous un chemin qui est le nôtre, qui est parsemé de roses, et souvent avec des roses pleines d'épines. Et puis ensuite, moi j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu d'échange, qu'on puisse parler, échanger, et puis peut-être prier les uns pour les autres. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup de choses dans une bonne heure et quart. On va essayer d'avancer comme ça. Alors le sujet, j'étais très étonné. Vous voyez ce petit livre-là, Mélancolie, les métamorphoses à la dépression. J'ai dit, tiens, c'est sur l'autre sujet, ça. C'est une expo qui est en ce moment à Paris, au Grand Palais, ceux qui sont sur Paris pour aller voir, que j'ai visité, non pas en pensant à cet atelier, mais ça m'a ouvert les yeux que c'était toujours un problème qui a toujours existé. La dépression. Dès l'Antiquité, on en parle. Et que ce n'est pas un problème moderne, comme on dit toujours. Non, ça a toujours existé. Et c'est normal, tout le monde a tout le temps été confronté à des épreuves, qu'on soit chrétien ou pas chrétien. Et moi, ça m'a, je dois dire, aidé à comprendre un peu mieux. Donc, c'est très bien fait. Ça reprend pratiquement, c'est une exposition de peinture, ça reprend pratiquement tous les tableaux qui sont exposés, et il y en a quand même beaucoup. Et c'est un livre qui raconte l'histoire de comment on a appréhendé ce problème de la dépression. D'autres époques, on appelait ça la mélancolie. D'autres époques, on appelait ça le spleen. Vous voyez ? Aujourd'hui, on appelle ça la dépression. Dans l'Antiquité, on appelait ça les Saturnales. Vous voyez ? Et en fait, c'est toujours la même chose. Et j'ai trouvé assez intéressant comment l'esprit a évolué pour appréhender. Alors, si vous êtes sur Paris ou vous passez à Paris, ça vaut le coup, cette expo. Elle nous montre des gens dépressifs tout le temps, à toutes les époques. Vous voyez ?
Mélancolie.
Ouais, les métamorphoses à la dépression. Alors ça, c'est un livre qu'on trouve, je pense, toutes les librairies. Hein. C'est une série qu'on trouve facilement dans toutes les librairies.
Quel éditeur,
c'est l'éditeur, tu regarderas. Bon. Donc voilà, un petit peu. Alors je vais vous distribuer ma petite feuille, j'espère que j'en aurai assez, puisque vous êtes long, je vais les compter. Ça fait 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, si tu veux les distribuer. Alors, un peu d'expérience pour vous permettre de comprendre comment je vais vous présenter le sujet. Alors, vous savez, il y a deux choses très importantes dans la vie d'un homme. C'est où il est valorisé, parce que tout ça, c'est ça, on est fabriqué comme cela. C'est l'épouse. Il va nous valoriser. Et on est très content d'avoir une épouse. Et puis c'est le travail. Parce que le travail va nous valoriser. Et c'est ces deux axes-là que le Seigneur va travailler. Et on va vivre des épreuves à travers ces deux axes-là. C'est ce qui va nous toucher le plus et le plus profond. Alors, en ce qui concerne mon épouse, quand je me suis marié, je n'étais pas chrétien. Donc moi, je voulais une famille, 5-6 enfants, et je voulais une épouse solide qui puisse me donner 5-6 enfants. Ça, c'était la règle. Alors, bon, je pense que le Seigneur a mis sa main, j'ai trouvé l'épouse, d'accord pour faire 5-6 enfants, et puis, on se marie, le Seigneur nous rencontre, on se convertit, et puis, pas d'enfant, mais la maladie. Et la maladie à l'endroit où on fabrique les enfants. Donc, terminé. Donc, ma femme a un cancer des ovaires. Donc, espérance d'enfance terminée. Alors, c'est pas évident à accepter. Quand on est converti, tout est nouveau, tout est beau. Hein, la vie va être facile. C'était une grande partie du message à l'époque. Et puis, paf. De plus, ça se double d'une maladie de cœur. Assez grave, hein, puisque dans les 2-3 ans qui ont suivi, elle a fait. Donc, vous voyez, ça a été l'hôpital, quoi. Hôpital pour le cancer, c'était le début de la chimiothérapie, c'était le début de la cobalt-thérapie. Je veux dire, c'est miraculeux que ma femme ait survécu. Normalement, le type de cancer qu'elle avait à l'époque, toutes les femmes mouraient. Hein, du reste, le chirurgien m'avait préparé, le radiologue m'avait préparé, il m'avait décrit les symptômes qu'il allait montrer, comment ça allait se passer. Alors donc, moi je me souviens, quand ma femme a été opérée, j'avais demandé au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me préparer à être veuf ou tu me laisses ma femme? Et j'ai une réponse. Je ne peux pas vous dire combien de temps j'ai prié, j'en sais rien. Mais quand je suis relevé, elle vivrait. Alors, elle vivrait. Donc ça, c'était clair, hein, c'était gravé. Elle vivrait. Et ce qui fait que toutes les péripéties, ça a quand même duré un an et demi après, hein. Avec toutes les affaires de chimiothérapie, cobalt, le cœur qui s'en est mêlé, tout ça, je n'ai eu aucun doute, elle vivrait. Ce qui l'a aidé énormément à traverser tout cela, parce que je n'ai pas paniqué, je n'ai pas été angoissé, rien du tout. Et ça a été une épreuve. Moi, je dois dire, je me suis fixé à ce que la réponse de Dieu. Puis j'ai pas discuté, j'ai pas essayé de l'arranger, même si parfois elle a fait septicémie un coup. C'était un jour de Pâques, l'hôpital m'appelle, venez vite, votre femme, blablabli, vous comprenez. Moi je me préparais pour aller au culte, deux jours de Pâques, voilà, l'hôpital qui m'appelle, venez vite, on transfère votre femme. Alors quand on vous transfère votre femme, c'est que ça va pas. Hein? Et il l'a transférée en cardiologie. Dans un autre hôpital avec un service de cardiologie plus pointu, parce qu'il y avait une septicémie. C'est après que je me suis rendu compte que c'était grave. Vous voyez ? Mais ce qui était formidable, c'est arriver à l'hôpital donc en soins intensifs avec sa septicémie, le Seigneur avait entre-temps guéri la chose. Et je vois toujours ces médecins avec la lettre. Vous savez, on fait une lettre d'accompagnement. Alors, ils disaient, oui, il y a ça. Puis ils avaient fait tout leur test. Non, il n'y a pas ça. Alors, moi j'étais content. Hein. Seigneur, voilà, tu réponds. Tu es fidèle à la promesse que tu m'as faite qu'elle vivrait. Alors, après, elle s'est remise. Après, il y a eu le ministère. Alors là, le ministère, dans mon boulot, moi, j'étais très, j'avais un boulot que j'aimais bien. J'étais, j'ai une formation d'électricien, donc j'ai travaillé un peu dans un tas de domaines. Puis j'ai terminé en bureau d'études à faire des projets de construction de grands immeubles. Donc j'ai fait des immeubles de prestige, ce qui était intéressant parce que l'argent comptait pas, donc libre cours pour faire des choses. Et puis, donc, j'étais très content. Et puis, j'avais une promotion en route pour être au niveau d'ingénieur. Le CERB m'a appelé avant. J'aurais aimé quand même finir ma carrière avec ingénieur à la maison. Le CERB m'a appelé 3 mois avant. Et ça se faisait à la fin de l'année. Alors j'ai quand même dû avaler la pilule. Hein? Et ce qui m'a réjoui, c'est que les gars qui voulaient que pousser à être ingénieur, ils m'ont félicité pour ce que j'allais faire. Hein? Ils regrettaient que je ne continue pas professionnellement, parce que bon, ils estimaient que je vais être un bon équipier pour eux. Et en même temps, ce que j'allais faire, ils l'appréciaient. Alors ça m'a consolé. Et quand même, j'avais que je mange la pilule. Hein. J'ai dit quand même, Seigneur, là, c'est un peu dur, hein, ça me passe sous le nez. J'aurais aimé encore 6 mois de plus. Quoi. Et c'était comme ça. Il faut accepter les temps du Seigneur. Hein. Accepter les temps du Seigneur qu'on ne maîtrise pas. Quand on prie, quand on veut remettre sa vie au Seigneur, on va se trouver devant des échéances comme cela. Si on essaye de modifier, évidemment, on peut toujours. On peut toujours, hein. On a toujours les possibilités de modifier les choses, mais j'ai essayé de ne pas trop le faire. On avait comme maître, je dirais, Ralph Chalys, donc il était impressionnant, ceux qui ont connu Ralph Chalys. Et il nous disait il faut suivre le Seigneur. Tu suis le Seigneur pas à pas, autant que tu peux. Tu ne discutes pas. Alors, j'ai commencé le ministère comme ça. Et puis, dans le ministère, j'ai eu beaucoup de joie et j'ai eu aussi beaucoup de peine. Beaucoup de joie parce que le Seigneur, je pense, pu travailler, notamment à France Mission, à l'Église à Nation aussi. J'ai fait pas mal de choses. Il y en a un tas qui me raconte des choses que j'ai faites. Moi, je ne me rappelle même plus. Mais je dis, c'était bien. Et puis, d'autre part, on prend des coups, beaucoup de coups, et souvent par les meilleurs qu'on a auprès de soi. Et ça, c'est le plus difficile. C'est le plus difficile. D'un seul coup, on ne comprend plus, ça ne marche plus, et on ne les trouve pas en ennemis, pas en concurrence, quelque chose de bizarre. Quelque chose de bizarre, qui n'est pas très assimilable. Alors ça fait réfléchir à la nature humaine, bien sûr, et puis en même temps, ça repousse vers le Seigneur, parce qu'on ne comprend pas. Alors ça fait partie de la carrière hein, que l'on vit. Je pense que c'est comme cela hein, aussi. Hein. Dans une église, il y a bien un temps où ça marche, puis un temps où ça ne marche plus. Il y a un temps où on a donné, puis un temps, il faut arrêter de donner, il faut partir. C'est comme ça la vie. Donc ça fait souffrir. Ça, c'est des épreuves. Et c'est là que le Seigneur, avec mon épouse, et avec le travail, à certains moments, pas tout le temps, à certains moments seulement, il y a eu des épreuves. Alors, ce qui concerne mon épouse, ça a continué. Hein. J'ai une femme qui est devenue petit à petit une santé très fragile, et avec différentes péripéties, donc ce cobalt qui a participé, je pense, à sa guérison il y a 30 ans, les particules nucléaires du cobalt ont 40 ans de vie. Donc elles continuent leur travail de manger les cellules. Donc maintenant, ça lui a mangé les eaux du bassin. Donc il a fallu refaire les deux hanches. Alors, c'est pas changé, pas comme les personnes âgées normales. Hein. Il faut refaire l'articulation des deux côtés. Oui, il faut refaire avec un petit peu de maçonnerie, du métal pour tenir tout ça, essayer de redynamiser la vie des os. Oui, c'est quand même un travail conséquent que certains artistes chirurgiens peuvent faire. Et ça coûte très cher. Donc ça, à 2 ans d'intervalle, les intestins qui fonctionnent plus bien, parce qu'ils ont été irradiés, donc il y a des portions qui ne marchent plus. Et une portion qui ne marche plus, c'est que dans les intestins, c'est là que, surtout l'intestin grêle, c'est là qu'on récupère tous les vitamines, les minéraux, enfin tout ce qu'on a besoin pour vivre. Donc la portion qui récupère le magnésium ne marche plus. Du tout. Ce qui récupère le potassium, à peu près, et le calcium, marche de temps en temps, pas toujours. Donc, il faut toutes les semaines vérifier le taux de magnésium, et tous les 10-15 jours, aller à l'hôpital de jour pour se faire une dose de magnésium par perfusion. Donc ça, c'est la vie. Et à l'automne, il y a eu brutale chute de magnésium, et j'étais parti chercher du pain, je reviens, je retrouve ma femme dans le coma. Ça veut dire pourquoi, hein. Donc, 6 jours de coma. Alors, c'est paniquant, parce que là, elle était, comme ça, hein. Et elle luttait pour respirer. Mais elle luttait, hein. Vous voyez que la mort était là, hein, et qu'elle n'en voulait pas. Dans la conscience complète, elle luttait pour respirer. Les secours ont bien fait leur travail, puisque 6 jours après, elle est revenue, elle. Mais alors, pareil, même question qu'il y a, vous voyez, 30 ans auparavant, une fois qu'elle a été disons là, j'ai eu 2 moments forts, là. Donc, elle était en urgence, ma sœur était là, et les médecins urgentistes l'avaient passé en réanimation, et le médecin de la réanimation nous préparait à son départ. Il disait, revenez toutes les demi-heures. Donc, on venait toutes les demi-heures. Et puis, à un moment, avec ma soeur, on a dit, on va prier. On va prier. Alors, on a prié. On priait déjà avant, mais on s'est dit, on va s'arrêter, on va prier. On a prié à la cour de l'hôpital. Et à un bon moment, je ne peux pas dire plus que les autres fois, ni différemment que les autres fois. Hein. On n'a que les mêmes mots, on n'a que un même cœur, hein, un même esprit. Puis on revient. Et l'infirmier, il nous dit, ça a changé, c'est plus déclinant. Ça a changé. Et il dit, reviens dans une demi-heure. On revient une demi-heure après. Ça se maintient. Ce qui veut dire que là, la descente vers la mort était arrêtée. Elle avait 5 de tension. Hein. Ça avait, tout allait vers 0. Hein. Donc ça repartit. Alors, ça fait un baume au cœur, hein, de savoir que, d'une part, il garde l'épouse, mais qu'il répond à la prière. Et puis, quand je rentre à la maison, je dis, bon, ok, elle va vivre maintenant, mais comment je vais la récupérer? Parce qu'on m'avait dit, AVC grave. Je me dis, Seigneur, si tu me la redonnes comme une légume, c'est quand même difficile. Alors j'ai prié 3 jours comme ça. Puis le 3e jour, j'ai eu la réponse. Le Seigneur m'a dit, non, je te la rends bien. Alors, ouais, merci. On n'y croit pas trop quand même. Hein. Quand on voit, comme je l'ai vu, et quand on la voit avec sur le lit, là, avec 9 seringues automatiques là, qui sont là, tous les appareils entubés partout, dit, qu'elle ne bouge pas. Hein. Alors le lendemain, j'ai refait la même. Enfin, on la voit une minute, hein, on ne peut pas faire plus, et puis il n'y a pas de communication. Hein. Donc je reviens à la maison, et je repris à la même prière. Et puis alors là, le Seigneur me dit, mais je t'ai déjà répondu. Bon. Alors j'ai dit, bon, je mets, comme on dit, je mets ça dans ma poche. Ok, Seigneur, mais on se dit, comment que ça va se passer, hein? Et puis, arrive le sixième jour, où j'arrive à l'hôpital, ah, ça y est, elle était réveillée, était revenue, elle ne me reconnaissait pas, bon, puis après, elle m'a reconnu, et puis, comme elle était en tube, elle ne pouvait pas parler, alors on nous donne une ardoise, et puis elle me pose une question, parce que c'est pas ce qu'elle faisait là, hein. Elle pose une question, donc elle écrit sur l'ardoise, elle écrit pas très bien, puis elle fait une faute. Puis il corrige la faute et continue. Ou je dis là, ça marche. Ça marche. Là, ça marche. Effectivement, ça marche. Et ça marche. Et elle est revenue entière, hein. La tête, tout. Ah, merci Seigneur. Hein. Vous voyez, donc, ça, c'est à peu près les grandes étapes d'expérience que j'ai vécues. Ce qui fait que c'est là-dessus que je ne peux pas faire autrement qu'avec cet arrière-plan, vous parler de la prière dans l'épreuve. Hein. Alors, vous avez votre petite liste là, à moins que vous ayez des questions à poser. Hein, faut toujours. J'ai un peu listé les types d'épreuves que l'on traverse. On ne traverse pas tout cela, heureusement. Hein. Mais on va toujours en... Tiens, on va lui donner ça. On va en traverser certains types. Alors, on ne va pas s'étendre dessus parce que vous les connaissez. Les personnels, on fait des crises de culpabilité parce qu'on n'a jamais bien fait ce qu'il faut. Hein. Ça peut entraîner des crises d'angoisse parce que, on ne sait plus comment s'y prendre, des inquiétudes, du découragement. Enfin, tous, je pense qu'on a connu ça. On peut avoir du désespoir, de la désillusion, parce qu'on n'est pas ce qu'on croyait être. Hein. Donc, ça donne la mauvaise image de soi. Et tout ça, on va le traverser, plus ou moins. Chacun, on va traverser ça. C'est ce qui va nous façonner, ce qui va nous former. Puis, la difficulté dans le ministère... Pour avoir travaillé quand même assez longtemps dans l'entreprise, on a des difficultés aussi dans l'entreprise, mais c'est tout à fait différent, parce que dans le ministère, dans l'église, on s'aime. Dans l'entreprise, on ne s'aime pas. Mais dans l'entreprise, on s'aime. Donc, dans l'église, on s'aime. Donc, c'est tout à fait différent. Et c'est beaucoup plus douloureux. Beaucoup plus douloureux. Dans l'église, dans les équipes. Un problème avec les collègues. Ça arrive, problème d'équipe. Hein. Bon. La jalousie existe dans le monde évangélique. Terrible, la jalousie. Terrible. Parce qu'on la masque spirituellement. L'orgueil aussi est là. Tout est masqué. Rien n'est apparent. L'injustice, la vanité, l'hypocrisie, tout ça, ça existe. Et on en souffre. Seulement, on ne peut pas dire aux frères, de face, t'es hypocrite. T'es orgueilleux, t'es vaniteux, parce qu'il a toutes ses défenses. Et il vous cloue au pilori. Et des fois, vous avez des équipes qui vous clouent au pilori. Donc, ça fait partie du jeu. À un certain moment, alors, ça va vous entraîner chez vous de l'humiliation. Dans le jeu des affrontements, parce que ça existe, le jeu des affrontements, dans le monde évangélique, c'est comme partout, le résultat, c'est qu'on va vous humilier. On va vous retirer ce que vous avez pour vous humilier, vous enfoncer. Pour que vous perdiez confiance en vous. Donc ça fait partie des épreuves qu'on va vivre quand on avance dans le ministère, hein. Et que ce soit dans une église, dans une œuvre, partout, on va se confronter à cela. Il n'y a que les solitaires hein, qui sont épargnés par ce genre de problème. Mais même les solitaires, je pense que le Seigneur va les attraper à un autre tournant. Ben oui, je connais pas le... Je suis pas solitaire, moi, mais ils vont être attrapés à un autre tournant, ça c'est sûr. Donc il y a la hiérarchie, les anciens, l'Église, vous voyez tout ça, qui vont vous donner des problèmes. Et à côté de ça, vous avez la famille qui est là. Alors il y a la santé, les enfants, l'épouse, l'argent, le problème d'argent, on a tous plus ou moins des problèmes d'argent dans le ministère. Problèmes de ministère qui envahit la famille, enfin, vous voyez, tout ce genre de problèmes. Et souvent, ça se cumule. Hein. On n'a pas de. On ne dit pas, il y a d'abord ça, puis après, il y a tranquille, puis après, ça. Donc, souvent, alors, ça, il y a une cumule de tensions, d'épreuves, et on est abasourdi. Et on marche en zombie. On sait qu'il faut aller là-bas, mais on y va comme ça, hein. Un peu, des fois, comme un somnambule. Et moi, j'ai appris, il faut toujours aller de l'avant. Quoi que ce soit qui arrive, il faut y aller. Il y en a qui s'arrêtent. Non, moi, je continue. Je suis comme ça, hein. Je ne veux pas dire que c'est la règle. Il y en a qui, il faut qu'ils s'arrêtent, qu'ils aillent au vert, qu'ils aillent... Moi, je n'ai jamais pu m'arrêter, jamais pu prendre une année sabbatique. Je ne peux pas. Il y en a qui vont prendre une année sabbatique, et puis voilà, non, moi... C'est comme ça. Donc, je dirais, il n'y a pas de règle, il faut un peu se connaître aussi. Il y en a, c'est vrai, il faut qu'ils s'arrêtent. Puis ils peuvent le faire, et puis ils sont, ça va, les requinqués. Ils vont pouvoir faire le bilan et le point. Moi, ce n'est pas mon cas. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, j'ai appelé ça pathologie, oui, parce que c'est quand même vraiment des pathologies. On a des blessures. Blessures de l'âme. Hein. Les blessures de l'âme, les blessures du cœur, hein. C'est là que ça se situe. Et c'est des blessures très douloureuses. Très douloureuses. Difficiles à soigner. La dépression, bien sûr. La mélancolie, alors j'ai appris un petit peu ce qu'il y a dans le bouquin, le spleen. Vous voyez, tout ça, c'est des aspects qui fait qu'on se trouve hors cadre, on n'est plus dans le bain normal. On n'est plus dans le bain normal. Surmenage. Alors ça, on va parfois contrer cela en se suractivant, en se surexcitant, donc on va arriver dans le surmenage. Alors j'ai oublié, après, on peut avoir de la surexcitation. On voit des fois, les gars, ils en font, puis alors, ils sont exaltés, il y a une exaltation, et puis on se dit, tiens, il va rentrer dans le mur. Et puis c'est vrai, ça, il va rentrer dans le mur. Mais il n'y a pas moyen d'arrêter autrement. Alors il y a l'asthénie, j'ai oublié. Après surexcitation, il y a l'asthénie. Alors l'asthénie, c'est une fatigue écrasante. Fatigue. Fatigue qui vous tombe dessus. Fatigue pratiquement paralysante. Mais ça fonctionne toujours là. Et puis après, c'est l'aboulie. Alors l'aboulie, c'est, je dirais, attention, c'est, il n'y a plus de volonté. L'aboulie, plus de volonté. Alors déjà, l'aboulie, ça rentre dans le cadre des maladies, hein. Pas l'asthénie. Alors, il faut faire attention, j'ai mis ça parce qu'il faut quand même savoir les différentes étapes qui vont nous conduire vers... qui peuvent nous conduire à la folie, si on persiste. Hein, faut faire attention, savoir s'arrêter. Alors, on a chacun ses méthodes pour s'arrêter, mais il faut savoir où on en est. Parce que on peut sortir de notre cadre et on peut faire des dégâts, après, sur nous. Donc, il faut faire très attention, savoir s'arrêter. C'est pour ça que j'ai mis ça. Moi, j'irai de surmenage sur excitation, vous pouvez aller plus loin, parce qu'après... on commence à faire des dégâts. Alors, comment j'ai appris à travers tout cela, ça fait quand même, depuis, dans le ministère, ça fait depuis 30 ans, bientôt 30 ans, oui. Donc, une des premières choses qui m'a fait du bien, c'est de savoir que Dieu sait tout de nous. Tout. Alors, le bon, le mauvais qu'on a en nous, mais le bon et le mauvais qu'on nous fait. Il sait tout. Alors, il faut du temps, moi, déjà, pour réaliser ça. Hein. Mais ce qui permet de parler au Seigneur et de répandre son cœur. Vous voyez, comme la maman de Samuel, elle répandait son cœur. Parlait de ses problèmes. À Dieu. Donc ça, il faut le faire. Moi, je crois qu'il faut le faire. Il faut répandre son cœur, parce que Dieu sait tout. Et il attend que nous lui disions, que nous lui formulions nos blessures, qu'on n'accable pas ceux qui nous blessent, surtout pas, ça surtout pas, faut pas, si on fait ça, ça va pas. Ils savent pas ce qu'ils font. Ils réalisent pas ce qu'ils font, parce que dans ces moments de crise, c'est tout le monde qui est en crise. Ce n'est pas que vous, les autres aussi sont en crise. C'est tout le monde qui est en crise. Donc, il faut prier les uns pour les autres. Vous voyez ? Il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de méchants. Il y a une situation. C'est une situation d'évolution. Ce n'est pas autre chose. C'est une situation d'évolution. Bon, où Dieu ne peut pas faire évoluer les choses autrement que comme ça. Donc, c'est tout le monde qui est face à son os, si vous la rongez. Et puis, chacun doit le ronger. Donc, il faut prier les uns pour les autres, parce que Dieu sait tout. Il sait tout. Il sait tout de la maladie. Il sait où il veut en venir. Et alors, après, une autre chose qui est importante, c'est notre position devant Dieu. C'est important de se poser la question. Comment je me présente devant Dieu? Comme la victime? Comme l'incompris, vous voyez, comment je me présente devant Dieu? Ma position dans la prière, ma position dans ma relation avec Dieu, elle est quoi, ma position? Est-ce que je suis le héros qu'on est en train de descendre à coups de flèche? Est-ce que... Ça a toujours une belle image de soi, hein? Donc, il faut réfléchir à ça. Et en réfléchissant à cela, en priant pour savoir, Seigneur, que je sois dans la bonne position devant toi. Parce que Dieu va me répondre si je suis dans la position où il veut. Il ne répondra pas si je ne suis pas dans la position où il veut. Donc, important de se poser la question. Alors, j'ai trouvé trois réponses que je vous donne là. C'est la rencontre de la créature avec son créateur. Je suis une créature que Dieu a voulu. Une créature qui a son histoire, qui a eu son début, qui aura sa fin d'histoire sur cette terre, mais que Dieu veut utiliser entre deux. C'est lui mon créateur, c'est lui qui a voulu que je sois ce que je suis. Et je suis très imparfaitement parce que dans ma nature, je suis rebelle. D'où le deuxième point, rencontre du pécheur racheté avec le Dieu juste et saint. Jamais oublier qu'on véhicule toujours une masse de péchés avec nous, même si tous les jours, on se met au pied de la croix, Seigneur, par ton sang, lave-moi, purifie-moi. Mais tant qu'on est dans ce monde, on va transporter avec nous une partie de ce monde. Toujours. Donc jamais oublier ça. Et qu'on se trouve devant le Dieu juste et saint qui ne tolère pas le péché, qui ne tolère pas l'injustice, qui est intransigeant, absolument intransigeant, et qu'on ne fera jamais fléchir. Et puis, j'ai trouvé le troisième élément là qui m'équilibre, c'est quand je présente devant Dieu, je prie c'est aussi la rencontre du Fils bien-aimé avec son Père céleste. Et c'est ces trois éléments-là, vous voyez, la rencontre de la créature avec son créateur, parce que la créature va mettre l'infinie distance qu'il y a entre moi et Dieu. Ça me remet en position. Je suis une créature, voulue par Dieu, et lui, c'est le créateur. Quand je pense qu'il tient le monde dans sa main, tout ce qu'on voit partout, toute la vie qu'il y a sur la planète, il la tient, il a voulu qu'elle soit là, il la maintient. Hein? Et moi, je suis là-dedans un élément qui voit. 6 milliards, combien ? 200 millions, 300 millions ? Un, parmi tout cela, il me voit. Il sait où je fais, il sait ce que je pense, il sait les cheveux sur ma tête, nombre de cheveux, hein. Il sait tout de moi, il sait tout. Alors ça me met à ma position de créature. Et j'ai besoin de cette position qui n'est pas humiliante, pas du tout. Mais c'est ma position devant l'immensité de Dieu. Et face au problème du péché qui est inhérent à notre nature pécheresse, au monde dans lequel nous vivons, au monde miné par le diable, face à cette nature, bien sûr, le Seigneur a fait, Dieu a fait son œuvre pour que je sorte du péché, Jésus-Christ est venu, il est mort sur la croix, il est ressuscité, je suis converti. J'ai la vie nouvelle. Je suis un homme nouveau. Dans le pétrin, peut-être, mais je suis un homme nouveau quand même. Hein? Quand on est malaxé par l'épreuve, on se trouve quand même dans le pétrin, hein, du boulanger. Hein? Mais quand même, je suis un homme nouveau. Et je suis devant Dieu juste et saint. Je suis devant lui. Et puis, troisième dimension, c'est que je suis un fils bien-aimé, que le Père aime. Il me prépare une place. Il pense à moi. Il a un avenir pour moi. Il a en réserve des œuvres. Il a en réserve quelque chose pour moi. Il ne m'oublie pas. Vous voyez ? Et c'est ces trois éléments-là qui m'ont aidé, que j'ai découvert, ça a demandé du temps, et qui permettent d'avancer. Alors ça va conduire, vous voyez, à l'élément en dessous de rechercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur, dans cette situation-là ? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Qu'est-ce que tu veux que je sois ? Parce qu'on peut être des pierres d'achoppement pour les autres. Hein ? On peut être des obstacles pour les autres. Certainement pas ce que Dieu veut. Non ? Qu'est-ce que le Seigneur veut que je sois ? Alors, ça va rechercher la volonté de Dieu. Et ça va nous obliger à travailler notre foi. Parce que tout ce qu'on va découvrir, c'est pas forcément ça qu'on voulait. C'est rarement ça qu'on voulait. Moi, j'ai jamais trouvé que c'était ça que je voulais. Donc, on peut pas faire autrement que de l'accepter par la foi. Donc, c'est un travail de foi qui va faire entrer dans la pratique d'une nouvelle phase de ma nouvelle vie. Parce qu'à chaque fois, on va avancer vers une nouvelle phase. Un peu comme un escalier qu'on monte. Et des fois, on descend les marches. Donc, je vais remonter mes marches si j'ai foi dans cette nouvelle étape que Dieu me présente. Donc, je ne sais pas. Je sais pas comment que ça va être. Mais je sais que ça sera bien parce que c'est Dieu qui le veut, parce que Dieu est bon, il m'aime. Et il sait tout. J'ai appris aussi qu'on a besoin de parler. On a besoin de parler. On a besoin. On a besoin de trouver une oreille et un cœur qui nous écoutent. Alors, c'est un frère qui m'avait appris ça il y a très longtemps. Et puis, un jour, j'ai eu besoin. Parce qu'on a besoin de parler. Mais on ne peut pas parler à n'importe qui. On ne peut pas parler à ma femme. Je ne vais pas l'accabler, ma femme, de tout ce que je vis, tout ce qui se passe autour. Elle a déjà ses propres problèmes. Elle a ses propres problèmes à gérer. Et je ne veux pas encombrer ma femme avec ça. Donc, le Seigneur m'a donné un frère complètement qui n'est pas dans la profession du tout. Il est viticulteur, ostériculteur. Donc, ça n'a rien à voir. Habitué au grand air, vous voyez, pas comme moi qui vit en ville, alors qu'il y a une vue, pouf, et je peux lui parler. Il ne comprend pas la moitié des choses que je lui dis, parce que ce n'est pas son affaire, mais parce qu'il m'aime, il m'écoute. Et de temps en temps, il me sort une réponse de bon sens. Et je me dis, le Seigneur me parle par lui. Moi, j'ai cherché une oreille qui m'écoute et de qui Dieu peut utiliser pour me donner, vous voyez, des panneaux d'indication, des panneaux indicateurs. Alors, moi je vous invite à chercher, hein, que vous cherchiez, que vous demandez au Seigneur qui vous donne cette oreille, ce cœur. Hein. Et moi, j'en ai eu besoin. Je vois pas comment j'en serais sorti si j'ai, à un certain moment, si j'ai pas eu ce frère que j'allais voir. Là, on marchait dans les champs, puis voilà, on parle. Puis c'est une heure. Et quand on revient, ah, on a compris telle chose. Ah oui. Vous voyez ? On n'est pas un sac qu'on va remplir, hein, de tension, de contrariété, de blessure. On n'est pas foutu, on n'est pas fait comme ça. Hein. Le sac, il faut le vider. Hein. Sinon, il va éclater. Et on peut dire, on prie tous les jours, on remet nos problèmes au pied du Seigneur, mais j'ai réalisé que c'est pas dans mon cas, ça ne suffisait pas. Il fallait que j'aie une oreille humaine et un cœur humain aussi. Donc, je vous conseille de chercher cela. Ce qui m'a aidé beaucoup, c'est de lire les psaumes et les proverbes. Alors, c'est ce que je fais, quand c'est comme ça, je lis en priorité psaumes, 5 psaumes. Si vous lisez 5 psaumes, vous lisez en un mois le livre des psaumes. Vous lisez un proverbe par jour, vous lisez en un mois le livre des proverbes. Moi, je lis Psaume 1, il y a 30 jours, psaume 31, 61, 91, 121. Vous voyez ? Tac, 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 tac. Et j'ai découvert que ces psaumes, en fait, forment un tout, comme ça. Vous voyez ? Et ça donne un panorama. Parce que dans le livre des psaumes, c'est le livre des gars qui souffrent. Hein. Oui. Là, on a le cœur qui est penché, hein, dans le livre des psaumes. Des gars qui discutent, qui râlent. Oh, hein, on va les écraser dans le sang, comme dit David, puis il y a 2 versets après. Ah non, t'es quand même le grand Dieu que j'aime, toi. Oui. Donc, ça, c'est très humain, les psaumes. Donc, ça, je veux dire, ça m'a aidé à être équilibré, de lire ces psaumes, puis après, proverbe côté pratique. Le cœur, les psaumes, hein, l'esprit, et proverbe, le pratique. Je lis comme ça, hein, 5, donc vous voyez, 5 psaumes, et toujours en... Quand c'est le 10 du mois, oui, ça fait le 10, ça fait le 40, ça fait 70, ça fait... Et le 29 du mois, vous tombez sur le 119. Alors, il faut prévoir du temps. Oui. Mais ça fait une bonne révision, 119. Je peux vous dire, au bout du mois, ça vous fait une bonne révision de 119. Hein? Ça fait comme un gros coup de projecteur sur le reste. Et ça nourrit le cœur et l'âme, et l'esprit. Puis j'ai découvert aussi le dixième point, là, c'est que dans tout ce qu'on va vivre, il faut rechercher la gloire de Dieu, par-dessus tout. Et ça va rester le guide. Je vais vers mon Dieu. Le but de ma vie, c'est de rencontrer le Seigneur. Ça, c'est le but. Il l'a dit tout à l'heure, ça, c'est le but. Le but de toute ma vie, c'est de voir le Seigneur face à face. C'est de pouvoir le contempler. C'est de pouvoir me réjouir vraiment de sa présence. Donc ça, c'est le but de ma vie. Et ce but-là va me conduire à chercher sa gloire. Quoi que ce soit que je traverse, quoi que ce soit que je vive, c'est sa gloire que je veux voir, que je veux honorer, que je veux servir. Même s'il y a des moments d'épreuve où on est complètement foutu, démantibulé, on est comme un pantin cassé, où il n'y a plus rien qui marche, c'est quand même toi, Seigneur, que je veux voir. C'est ta gloire qui est importante.